Le contexte géopolitique brandi par François Bayrou pour justifier son refus de revenir à un âge de départ à la retraite à 62 ans. Conséquence, la table des négociations du fameux conclave est en train de se vider. Après FO et l'UDP, la CGT claque à son tour la porte.
La CGT a décidé ce soir de quitter ses concertations et d'appeler les salariés à se mobiliser. Le Premier ministre et le patronat ont malheureusement définitivement enterré ce conclave. Et c'est très grave. Le Premier ministre s'était engagé à ce que ces discussions soient sans totem ni tabou. Et il nous a dit ce week-end qu'il y avait un tabou, les 62 ans. Or, les 62 ans, c'est la question centrale. En disant cela, non seulement le Premier ministre trahit sa parole, mais il trahit des millions de salariés qui se sont mobilisés pour l'abrogation de la réforme des retraites pendant 6 mois. Ce que je veux dire solennellement au Premier ministre ce soir, c'est que la question des retraites, ça peut pas être un petit sujet politicien parmi d'autres. C'est une question très concrète pour nous, pour nos vies. Cette réforme, elle s'applique seulement depuis 1 an et elle fait déjà des ravages pour des millions de salariés.
Voilà, donc plus de CGT demain à la table des négociations. La CFDT, pour sa part, dit oui, on ira demain, mais par contre, on va imposer nos règles. Hors de question de suivre les règles de François Bayrou. Charles Consigny nous a rejoint.
Bonsoir.
Bonsoir Charles. Est-ce que ce conclave peut être sauvé malgré les départs et malgré peut-être un changement de règles, comme le veut la CFDT ?
Je pense que ce conclave, c'était un subterfuge de Bayrou pour s'assurer du soutien du Parti Socialiste sur le vote de son budget. Et je doute franchement qu'il y ait jamais eu la moindre volonté ailleurs qu'à gauche de revenir sur la réforme des retraites. Je pense que tout le monde, en réalité, se rend bien compte que la population... vieillissant et le nombre d'actifs se réduisant par rapport au nombre de retraités, en réalité, ça n'est pas du tout réaliste de penser qu'on va revenir à la retraite à 62 ans. Et les plus optimistes...
Et même 60 ans pour la CGT.
Et les plus optimistes considèrent simplement que cette réforme, elle est en réalité incomplète et qu'il faudra probablement reculer encore.
Mais au-delà de la question sur le fait est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est pas réaliste, c'est juste que là le débat risque de ne pas avoir lieu parce que demain vous avez quand même une organisation patronale qui ne sera pas à la table des négociations, vous avez deux syndicats qui ne seront pas présents, FO et la CGT et la CFDT qui dit voilà, moi je hors de question qu'on reprenne le cadre qui est fixé par François Bayrou et il va falloir qu'on discute d'un nouveau cadre. Avant d'avoir votre regard, Philippe Vigier, député Les Démocrates d'Eure-et-Loire et ancien ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Juste une clarification sur la position de la CFDT ce soir, Franck Boisize. Donc c'est un non à ce conclave façon Bayrou, mais un oui à la poursuite des négociations à notre sauce. Comment ça se traduit et comment ça peut évoluer dans les prochaines semaines ?
Marie-Lise Léon a été assez claire, c'est-à-dire que la manière dont a démarré ce conclave très fermement encadré, une feuille de route assez contraignante finalement donnée par François Bayrou, personne ne s'y retrouvait. Et donc la leader de la CFDT dit « moi je veux bien continuer à discuter parce que c'est dans l'essence même de la CFDT qui est un syndicat réformiste, qui n'est pas du genre à claquer la porte, mais à négocier sur d'autres bases que celles extrêmement contraignantes qui ont été demandées par le Premier ministre. Souvenons-nous, Tout s'est mal emmanché. C'est-à-dire qu'il a commencé par dire d'abord, je donne une feuille de route contrainte dans le temps. Ensuite, il a dit, sur les 62 ans, il n'est pas question de négocier. Donc, on est à centre de partenaires sociaux. Ils se sont dit, finalement, on est autour de la table. Pourquoi si on est sous une sorte d'œil de Moscou qui nous oblige à discuter dans un cadre très précis?
Mais est-ce que les autres partenaires sociaux sont prêts à changer ce cadre, comme le demande la CFDT? Est-ce que le MEDEF accepterait un changement de cadre?
Le MEDEF, pour le moment, se frotte un peu les mains parce qu'il est dans une position où il regarde les uns et les autres sortir.
Il y allait déjà en reculons.
Il y a été en reculons. Finalement, si on sondait les cœurs du MEDEF, ce qu'il espère, c'est que tout cela n'aboutisse sur rien, qu'on reste sur la réforme 2023 d'Elisabeth Borne et que rien ne se passe.
Philippe Vigier, est-ce que François Bayrou est le seul à encore croire à ce conclave ?
Non, moi je crois au paritarisme, je crois au dialogue social. D'ailleurs, au travers de cette lettre de cadrage, cette possibilité qu'il a donnée aux syndicats, c'était assez nouveau. Vous m'accorderez qu'il y a uniquement sur les régimes de retraite complémentaires. Rappelez-vous, à Gircarco, les partenaires s'étaient réunis. D'ailleurs, ils avaient baissé à l'époque les indemnisations retraite sur les complémentaires de 28%. Donc là, chacun est dans son rôle. Il a dit directement, on ne viendra pas à 62 ans. Parce que revenir à 62 ans...
Mais est-ce qu'il a eu tort, est-ce qu'il a eu tort de changer les règles en cours de jeu?
Parce que c'est ça qu'on revenir à 62 ans, ça veut dire gommer d'un trait de plume la réforme Touraine qui a été portée par la gauche.
Oui, mais alors attendez, c'est lui qui avait dit ni totem ni tabou.
Non, mais on est d'accord.
C'était lui qui l'avait dit, c'était lui qui avait fixé oui, ces règles du jeu, et il les change en cours. Et c'est ça qu'on lui reproche.
J'entends ce que vous me dites, mais entendez également l'argument que je développe en expliquant qu'on revenait à la réforme Touraine, et elle est toujours là, elle est en vigueur, et jamais la gauche n'a voulu la supprimer. Et la deuxième chose sur le cadre financier, mais c'est normal, les syndicats, enfin, faut voir leur maison dans laquelle tout ça se passe. Ils ont toujours pensé qu'on allait revenir, quoi qu'il arrive, à la retraite à 62 ans. Le sujet, il est là. Il y a des aménagements à faire, parce qu'on ne parle jamais des avancées que l'on a pu obtenir avec la réforme Borne. On ne parle jamais de toutes les marges de manœuvre qu'il faut maintenant mettre en avant, par exemple, sur les sujets de pénibilité. Parce que tout le monde ne part pas à 62 ans, 63 ans. Celui qui a démarré à 16 ans avec la réforme Borne.
Attendez,
oui, mais c'est important de dire, parce qu'on a un niveau de petite retraite dont on ne parle jamais, c'est le niveau des retraites. Moi, je sais bien qu'on est arc-bouté sur l'âge. On n'est jamais arc-bouté sur le montant de la retraite.
Je vais vous donner la parole dans un instant, Franck et Roselyne. Mais quand même, j'aimerais revenir, excusez-moi d'insister, mais sur ce changement de règle, parce qu'encore une fois, c'est pour ça, aujourd'hui, que la CGT claque la porte. C'est tout ce que vous étiez en train d'expliquer, c'est les discussions qu'ils étaient censés avoir tous les jeudis jusqu'en juin, et essayer à la fin, effectivement, peut-être de se mettre d'accord. Est-ce que vous dites que ça a été une erreur de la part de François Bayrou de changer ces règles en cours de jeu? Et pourquoi ne pas être allé au bout de ce conclave? Les partenaires sociaux n'auraient certainement pas réussi à se mettre d'accord sur une abrogation de la réforme des retraites. Pourquoi ne pas être allé au bout?
Il aurait pu le dire différemment, c'est ce que vous voulez me faire dire.
Non, mais attendez, il s'est pris les pieds dans le tapis, François Bayrou.
Les journalistes ont...
Qu'est-ce que c'était le but de cette... je déteste le terme de conclave, mais ça s'appelle comité machin chose, enfin peu importe.
Mais c'est François Bayrou qui l'a appelé conclave.
Oui, il aurait mieux fait de ne pas utiliser ce nom-là.
C'est
pour ça que ma grande idée profonde. Il réunit ça, qui voulait mettre les partenaires sociaux devant la réalité des faits. La réalité des faits, on la connaît, c'est 30 milliards de déficit du système des retraites à l'horizon 2045, en restant 64 ans. Donc, il voulait finalement mettre un peu, comme la souris dans la souricière, vers le morceau de fromage, arriver à un diagnostic partagé qui n'a jamais été fait, parce que le dialogue social n'avait pas été vraiment mené avant la réforme des retraites, partagé n'avait pas été fait. Il voulait faire ça, et alors, j'allais dire un gros mot, mais je vais pas le dire, il se prend les pieds dans le tapis au détour d'une intervention. Il aurait mieux fait de regarder Madame Astrid Panosian Bouvet sur ce truc, qui est bien meilleur que lui, sa ministre du Travail. Elle se laisse pas entraîner sur des bêtises.
Il commet deux erreurs. Je suis désolé, Roselyne. Il commet une première erreur, qui est de dire, effectivement, je ne reviens pas sur les 62 ans. Ce qui, du coup, ferme la porte quand même à une négociation qui pouvait s'emmancher sur une cote mal taillée à 63 ans, sur laquelle certains partenaires sociaux étaient peut-être prêts à discuter.
Dont la CFDT.
Ça, c'est la première erreur. Mais deuxièmement, dans le diagnostic partagé, expression que vous employez, il se fait quand même moucher par la Cour des comptes, parce qu'au début, il donne un bilan catastrophique la mission flash de la Cour des comptes dit attendez monsieur Bayrou, c'est pas aussi grave que ce que vous voulez bien.
Non, mais parce que la Cour des comptes ne rajoute pas le déficit des
fonctionnaires.
Juste un tout petit point, on n'est quand même pas totalement obligé d'être dupe des intentions politiques de François Bayrou avec fameux conclave.
Tu penses que je suis dupe,
Rosine? Parce que en fait il dégaine ce conclave François Bayrou au moment où il considère que son vrai sujet, son objectif absolu, c'est la non-censure des socialistes. Donc en fait, c'était une arme pour obtenir cette non-censure, et il n'a jamais cru, François Bayrou, que ça pouvait faire autre chose qu'au fond à donner le sentiment qu'il allait permettre aux syndicats d'ouvrir une espèce de nouvelle ère de concertation et de coincer tout le monde.
Alors, vraiment pour un crétin.
Il n'a jamais pensé qu'il allait faire autre chose qu'apaiser les esprits et les cœurs au moment où la fureur le menaçait.
Mais c'est précisément cela qu'aujourd'hui le reprochent les socialistes, de dire vous êtes servi de nous, on était un instrument politique, enfin ce conclave a été un instrument politique pour éviter la censure, et maintenant qu'on ne vous a pas censuré, on est en train de changer les règles. Sauf que la censure, c'est ppas un accord ad vitam aeternam, l'accord de non-censure. Et là, aujourd'hui, les socialistes, les insoumis sont en train de mettre la pression sur les socialistes pour qu'ils le censurent. Le RN dit que ça commence à faire pencher la balance vers la motion de censure. Est-ce qu'il s'est pas mis en danger avec ce changement de règles en cours de jeu?
Si vous voulez me poser la question de savoir si ça a conforté sa situation, je vous répondrai non. Si vous êtes quatre contre moi, vous me donnez quatre contre moi.
Allez-y.
Alors, je vais vous dire une chose. D'abord, sa volonté d'apaiser, c'était pas uniquement le fait de pas être censuré. Je rappelle que sur l'hôpital, il y a eu quand même quelques concessions assez larges qui ont été faites, vous le savez, au Parti Socialiste pour la non-censure. Limiter le sujet aux retraites, et en plus, c'est un grand mensonge, parce que sur les retraites, je le répète ce que je vous ai dit. D'ailleurs, vous avez entendu les socialistes à l'Assemblée aux questions hier? Ils n'ont pas envoyé les premiers de cordée. Ils savent très bien qu'on ne reviendra pas à 62 ans. Simplement, de dire cela au milieu
63,
de dire cela. Mais attendez, mais vous êtes arc-bouté sur l'âge.
Moi,
pardonnez-moi, j'ai d'autres sujets. J'ai beaucoup travaillé ces questions-là. À l'interroger ceux qui ont des métiers extrêmement difficiles.
Mais justement, on va revenir sur les dommages collatéraux de ce conclave.
Mais cela, justement, pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, celui qui démarre à 18 ans ou à 17 ans ou à 19 ans, est-ce que oui ou non après la réforme Borne? Le système est meilleur ou pas par rapport à avant? La réponse est oui.
Il est
pas
inachevé, monsieur Vigier. Il est inachevé.
Mais entre, il faut distinguer ce qui est inachevé et ce qui est en régression. C'est en progression, mais inachevé.
Largement inachevé. Mais oui. Notamment sur la pénibilité. Du fait de la dureté du MEDEF sur les critères de pénibilité. Vous le savez pertinemment.
Et pour une deuxième raison que vous savez tout autant pertinemment. C'est que le sujet de la pénibilité, c'est qui? C'est le boulot des partenaires sociaux. C'est pas les parlementaires. C'est pas les ministres qui doivent définir les critères de pénibilité pour arrêter les histoires.
Philippe Vigier, est-ce que François Bayrou ne fait pas confiance, ne fait pas suffisamment confiance aux partenaires sociaux pour tenir compte de la réalité budgétaire, de la réalité du contexte géopolitique pour leur laisser le champ libre sans imposer cette règle en disant on ne reviendra pas sur les 62 ans.
On a des accros, certains ne veulent plus venir, mais moi je suis persuadé. Vous avez vu ce qu'a dit la secrétaire générale de la CFDT? Elle a dit on va continuer à travailler sous le mode et le cadre que nous, ils vont modifier, ils vont définir.
En refusant le cadre qui a été fixé.
On verra les copies à la fin, on verra si c'est iso-périmètre, donc il n'y a pas de nouvelles dépenses. Et s'ils font des propositions, en tout cas, moi, le parlementaire que je suis et du groupe démocrate, eh bien, on soutiendra ces propositions si le périmètre financier est protégé.
Charles, j'aimerais avoir votre commentaire. François Bayrou, sous pression de la classe politique, on l'a vu, sous pression des Français aussi. Avec ce sondage Elabe aujourd'hui, 50% des Français souhaitent qu'une motion de censure soit adoptée contre le gouvernement Bayrou. Et c'est une proportion qui est en forte hausse depuis fin janvier, plus 9%, ce qui peut paraître étonnant, vu le contexte géopolitique très incertain, que les Français ne soient pas effrayés par la perspective d'une nouvelle instabilité politique. Ça en dit long quand même, ce sondage.
Oui, après moi je pense qu'ils sont aussi effrayés par les conséquences de la stabilité politique telle qu'elle est. C'est-à-dire un gouvernement qui quand même n'agit pas beaucoup, qui est très cacophonique, avec des gens qui sont très différents dans leurs inclinations. Il y a quand même un monde entre ce que pense quelqu'un comme Bruno Retailleau et ce que pense Éric Lombard, par exemple. Éric Lombard, c'est un homme de gauche qui considère qu'il faut continuer à augmenter les impôts, qui considère qu'il ne faut pas réduire le nombre de fonctionnaires, qui considère qu'en gros tout va bien avec le système socio-économique français, qu'il faut rien changer. Et Retailleau, il est sur une ligne très différente et beaucoup plus à droite. Donc, il montre tous les jours que il a du mal à aller au bout de ce qu'ils voudraient faire. Donc je pense que les Français voient ça, qu'il y a une espèce de fond de dégagisme quand même assez puissant qui continue son œuvre. Et que somme toute, tout ce qui est fait là est pas très intéressant. Typiquement, cette espèce de conclave, c'est l'exemple, à mon sens, parfait des limites du en même temps. C'est-à-dire, vous pouvez pas à la fois avoir des ministres de droite dans votre gouvernement et dire que vous allez potentiellement reculer sur cette réforme qui était toute petite réforme sur les retraites. Donc je pense que les Français, ils sont plus inquiets de l'inertie dans laquelle on est. Ils voient bien que les voitures françaises vont se faire en très peu de temps complètement manger par l'industrie automobile chinoise. Ils voient ce genre de choses, le retard qu'on accumule. Et donc je pense que c'est plus ça qui les inquiète. Et ils voient bien qu'avec François Bayrou, on ne rattrape pas notre retard, loin de là.
Et en pression, les sondages sur les retraites, c'est plutôt, sur la motion de censure, c'est en hausse, mais sur les retraites, les gens qui voulaient la retraite à 62 ans, on était à plus de 80%, là, ça a très
nettement... On est à 56% des Français qui souhaitent revenir à 62 ans, mais donc il y a une majorité encore qui veut revenir à 62 ans, mais effectivement, ce chiffre est en baisse depuis
janvier.
Je vais vous donner la parole dans un instant, Philippe Vigier, pour vous faire réagir justement à ce sondage et à l'opinion des Français, mais j'aimerais qu'on écoute Jean-François Copé, qui était l'invité ce soir de BFM TV. Écoutez.
Tout peut à nouveau arriver, y compris une nouvelle censure une chute du gouvernement Bayrou. Et là, pour le coup, ça va être compliqué. C'est-à-dire, moi, je pensais que Barnier, c'était la dernière chance. Donc, Bayrou, c'est la dernière chance après la dernière chance. Donc, en fait, il n'y a plus d'options, en fait, après.
Il n'est pas désolé.
On a le même discours, évidemment, à gauche, avec cette censure qui pend au nez de François Bayrou. Est-ce qu'il joue son avenir sur ce conclave?
Non, je ne le pense pas, parce que comme l'a très bien dit Charles Consigny avec beaucoup de sagesse, les Français, ils n'ont pas envie d'une instabilité politique. Et d'ailleurs, Roselyne Bachelot a vu le même sondage que ce que j'ai vu ce matin.
Il n'a pas tout à fait dit ça, hein, Charles Consigny, quand même.
Il a dit qu'il y avait des hommes et des femmes de sensibilités différentes qui travaillaient avec une certaine cacophonie. Voilà, j'essaie de dire les choses. Pas cacophonie avec la fin de la récréation qui a été sifflée.
J'ai dit qu'il y avait quand même un vent de dégagisme puissant.
Oui, mais pas le vent de dégagisme, ça fait quelques années qu'on le connaît dans le pays.
Mais je pense que c'est toujours pas fini.
Moi, je pense
Philippe,
qu'on peut pas
s'apprêtait à dire du bien de moi, donc j'aimerais qu'on l'interroge.
Non, mais je voudrais dire oui. J'ai dit beaucoup de bien de Roselyne Bachelot parce que il y avait à l'époque 75% des Français qui étaient opposés à cette réforme de retraite, ils sont 55% qui sont opposés encore. Ils ont compris. Mais regarde ce qui se passe dans les autres pays.
Je ne sais pas s'ils ont compris ou s'ils sont résignés.
Mais pardon, lorsque vous perdez 20 points en 4 mois, ça interroge. Mais parce que les Français sont pas idiots, ils voient ce qui se passe dans les autres pays d'Europe. Que font les Espagnols? Ils font quoi?
Ils n'ont pas le même âge. Ils n'ont pas le même modèle social.
Oui, mais je me permets de vous rappeler, ils n'ont pas le même modèle social.
Cette comparaison qui revient de manière récurrente.
Ah ben oui,
vous savez très bien qu'elle se fait à modèle social différent.
Oui, mais
je comprends qu'elle vous arrange dans une comparaison strictement mathématique, mais vous n'intégrez pas les facteurs sociaux et culturels de chacun des États membres de l'UE.
Je les intègre aussi, et j'intègre également l'élément démographique que vous connaissez, qui plaide en faveur du fait que sur ces retraites,
on soit capable de les consolider. Est-ce que ça va pas se répercuter sur la classe politique aussi, avec des votes de colère?
Oui. Après, pardonnez-moi, ce qui se passe sur la scène internationale appelle aussi un peu de stabilité politique. Bon, tout ça va retomber et puis on en reparlera dans quelques semaines.